VOA Afrique, les infos. À Washington, Bagassi Koura.
Avec vous, Henri Francisque. Midi à Abidjan, 13h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Élection municipale en Côte d'Ivoire. Plusieurs personnalités blessées dans la nuit de lundi à dimanche à lundi à Grand Bassam. Plusieurs personnes ont été blessées dans la nuit de dimanche à lundi à Grand Bassam, près d'Abidjan, quand la police est intervenue pour disperser des manifestants qui réclamaient la proclamation des résultats de l'élection municipale dans cette localité, alors que les deux principaux candidats revendiquent la victoire. Le candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, et maire sortant, Georges Isalé, se déclare gagnant avec plus de 1300 voix d'avance. Mais le porte-étendard du parti au pouvoir, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Jean-Louis Moulot, accuse le camp de M. Isalé de fraude et de violence et affirme avoir remporté le scrutin. Au total, les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire ont été marquées par de nombreux incidents et contestations de résultats. 4 personnes ont été tuées lors de la campagne et pendant le scrutin le jour suivant, lors de différents affrontements entre militants politiques. Pour le moment, la commission électorale indépendante n'a pas encore proclamé les résultats des élections à l'échelle du pays. Un scrutin qui représente un test important avant les présidentielles de 2020. Le Burundi accuse la Belgique d'avoir commandité l'assassinat en 1961 du prince Louis Rwagasore, héros de l'indépendance et membre de la famille royale burundaise. Selon Bujumbura, Bruxelles a aussi sa main dans les différentes crises qui ont secoué le Burundi depuis cet assassinat. Jean-Roger Bion.
C'est la première fois que le gouvernement burundais accuse officiellement la Belgique d'être responsable de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, risquant de détériorer encore davantage les relations entre les deux pays. L'assassinat est survenu quelques mois avant l'accession du Burundi à l'indépendance. Le véritable commanditaire qu'est le royaume de Belgique, puissance coloniale de l'époque, qui était farouchement opposé à l'indépendance immédiate du Burundi, n'a pas encore rendu de compte, dénonce le porte-parole du gouvernement dans un communiqué. Le gouvernement envisage de mettre sur pied une commission technique ad hoc pour enquêter sur les assassinats de Rwagasore et des siens, ajoute-t-il, faisant référence à ses 2 enfants morts en bas âge quelques mois après sa disparition. Le gouvernement accuse également la Belgique d'avoir une part de responsabilité dans les différentes crises politico-ethniques qui ont endeuillé le Burundi depuis son indépendance.
République démocratique du Congo, la grève des enseignants continue dans la ville de Beni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Les participants à l'arrêt de travail exigent le retour de la sécurité dans la région avant de reprendre les cours. Cette grève a été déclenchée après le massacre d'au moins 18 civils dans un quartier de Beni, suivi d'une série de manifestations d'élèves. Les autorités promettent un dialogue avec les syndicats des enseignants, tandis que l'armée appelle à un apaisement. Le point avec Charlie Kassereka, envoyé spécial de VOA Afrique à Beni pour ce reportage.
C'est depuis le jeudi dernier que la grève a été lancée. Tous les établissements scolaires dans la région de Beni restent fermés. Les 2 grands syndicats des enseignants du Congo, à savoir SIECO et SINECAT, ces derniers réunissant tous les enseignants des écoles conventionnées catholiques en soutien aux élèves et enseignants tués lors du dernier massacre ici à Beni. Ils exigent la sécurité avant toute reprise des cours. Palou Kougislin, secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo à Beni.
Nous sommes fatigués, trop c'est trop. L'État nous a toujours promis des résolutions, mais ces résolutions restent théoriques. La situation continue à devenir grave. C'est pour cette raison que nous avons déclenché une grève. Nous ne pouvons pas mettre la vie d'autres enfants à danger, même des enseignants.
Les parents d'élèves, dépassés par les multiples tueries, soutiennent la mesure et appellent les autorités à réagir le plus vite possible. Kavira Kamate, la trentaine, mère de 4 enfants, explique.
Vraiment, nous soutenons les enseignants depuis le massacre. vraiment, nous ne savons pas où est-ce que nous allons finir. Et avec la vie que nous menons à ville, nous ne savons pas comment nous allons chaque fois payer les enseignants. Nous sommes menacés à ville comme aux chiens. Comme les autorités aussi ne peuvent pas aussi se taire, je pense bien qu'eux aussi vont prendre courage de chercher une solution.
Dans un communiqué de presse sorti ce week-end, les professeurs d'université de Beni viennent aussi de reporter la rentrée académique qui devrait intervenir ce lundi 15. Selon ces communiqués, la situation sécuritaire actuelle dans la région ne permet pas un bon climat d'enseignement. La rentrée académique est donc reportée de 2 semaines. Le maire de la ville de Beni, M. Nyoni Bwanakawa, par crainte de sacrifier toute une année d'études, projette de rencontrer les corps enseignants afin de trouver une solution.
Il est vrai, la décision du corps du personnel enseignant est consécutive à la situation sécuritaire qui prévaut au niveau de la ville de Beni. Je compte rencontrer le personnel enseignant dans les très prochains jours, discuter avec eux profondément quant à ce qui concerne la question, mais je crois que de la rencontre que nous aurons avec eux pourra surgir une solution, étant donné que le calendrier scolaire a toujours été très contraignant.
Cette grève arrive au moment où la région de Beni connaît une situation sécuritaire volatile, mais aussi confrontée à l'épidémie de la maladie à virus Ebola depuis août dernier et qui a déjà fait au moins 130 décès. Charlie Kasereka, VOA Afrique, Beni.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Afrique du Sud, l'hebdomadaire sud-africain Sunday Times a présenté à ses lecteurs hier des excuses inédites pour de fausses coupes. Le journal avoue avoir été manipulé dans des affaires qui avaient secoué le gouvernement de l'ex-président Jacob Zuma. Les détails avec Abdourahman Dia.
Le rédacteur en chef du journal, Bongani Sikoko, admet que quelque chose s'est mal passé dans la collecte de l'information et le compte-rendu de plusieurs affaires. Dans un long mea culpa publié dans les colonnes du Sunday Times, il affirme que le journal a commis des erreurs et s'est laissé manipuler par des personnes qui avaient des motivations cachées. Dans sa colonne, M. Sikoko évoque d'abord une série d'articles publiés à partir de 2011 sur un prétendu escadron de la mort de la police accusé d'exécution sommaire dans la province du KwaZulu-Natal. Des dizaines de membres de cette unité avaient été arrêtés et suspendus, puis finalement blanchis. Cette affaire avait nourri une série de purges dans la police et la justice. Le rédacteur en chef concède aussi que le Sunday Times s'est lourdement trompé en rapportant la création par l'actuel ministre Pravin Gordhan d'une unité spéciale du fisc chargée d'espionner des hommes politiques, dont l'ancien président Zuma. À l'époque, titulaire du portefeuille des finances, M. Gordhan avait été remercié par le président Zuma en 2017. Au pouvoir depuis 2009, Jacob Zuma a été poussé à la démission en février par son parti, le Congrès national africain, au pouvoir, en raison notamment des nombreuses allégations de corruption qui pèsent sur lui.
En Algérie, 5 généraux ont été placés dimanche en détention provisoire pour des malversations présumées. Ils ont été récemment limogés de hautes fonctions dans la hiérarchie militaire. Nous retrouvons Jean-Roger Bion.
Ces généraux, dont l'ex-commandant de la gendarmerie nationale et l'ancien directeur des finances au ministère de la Défense, ont comparu hier devant un juge d'instruction du tribunal militaire de Blida, à 50 km au sud d'Alger. À l'issue de leur comparution, la justice a décidé de les placer en détention provisoire. Ils ont été auditionnés pour la 3e fois en 15 jours pour le grief d'infraction aux consignes générales de l'armée portant sur des faits de dilapidation de fonds publics et de mauvaise gestion. Ces 5 généraux avaient été mis à la retraite dans le cadre d'une vague de limogeage ayant touché ces 3 derniers mois la haute hiérarchie militaire. Parmi les autres gradés limogés figuraient également les chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, des forces de défense aérienne du territoire, le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée et le contrôleur général de l'armée. Ces limogeages au sein de l'armée, longtemps considérés comme faiseuses de roi en Algérie, avaient suscité de nombreuses questions à 8 mois de la présidentielle de 2019, marquée par l'incertitude autour de la candidature du président Bouteflika, âgé de 81 ans à un 5e mandat.
Et pour terminer, en Gambie, plus de 20 mois après le départ en exil de l'ex-président Yahya Jammeh, les autorités gambiennes ont mis en marche ce lundi une commission Vérité, Réconciliation et Réparation pour faire la lumière sur les violations des droits de l'homme commises sous le régime Jammeh. Mais un éventuel jugement de l'ancien militaire qui a régné sans partage pendant 22 ans sur le pays paraît encore peu probable. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.